Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Yasmin Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmin Abdel-Fadel.
Mercredi 17 août, bonjour et bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Très, très heureuse que vous nous ayez choisi ce matin. Ce qui retient notre attention dans l'actualité est bien évidemment ces accusations d'agression sexuelle qui éclaboussent le cardinal Ouellet. C'est une ancienne stagiaire qui dit avoir été victime de Marc Ouellet à partir de 2008. Elle s'est jointe à un recours collectif récemment et c'est dans ce recours que l'on retrouve les détails dans la plainte qu'elle a logée, des détails sur les gestes et les commentaires inappropriés qu'elle allègue avoir, elle dit avoir souffert de la part du cardinal Marc Ouellet. Évidemment, le diocèse de Québec, ils ont refusé de commenter hier. On en saura plus quand ça va être débattu devant les tribunaux. Sinon, le Journal de Montréal, sous la plume de Daphné Dionvien, on apprend que les parents vont devoir se trouver un plan B. Les parents des enfants qui prennent d'habitude l'autobus scolaire pour se déplacer à l'école. Cette impasse-là, ces négociations qui persistent entre Québec et les transporteurs, il y a une impasse, ça ne bouge pas. Le réseau scolaire passe à l'action et à quelques jours du retour scolaire, on doit se préparer activement à vivre une rentrée sans autobus jaune. Tous les centres de services scolaires concernés demandent maintenant aux parents de prévoir un plan B pour le retour des classes. Aux États-Unis, l'ennemie républicaine de Donald Trump, il n'y en a pas beaucoup. Celle-ci, Liz Cheney, c'est la fille de Dick Cheney. Elle a été défaite dans le Wyoming dans la primaire qui l'opposait à une protégée du milliardaire Donald Trump. Je rappelle qu'elle a été une des rares républicaines à avoir tenu tête à Trump, notamment lors de l'assaut du Capitole du 6 janvier. Le gouvernement du Québec a annoncé hier qui lançait une nouvelle campagne de vaccination massive contre la COVID-19 qui sera ouverte à l'ensemble de la population adulte et ça dès le mois d'août, on y est. D'ailleurs, la prise de rendez-vous, c'est dès maintenant pour les 75 ans et plus et ça va continuer à s'élargir selon l'âge au courant des prochains jours. Ce qu'on nous dit grosso modo, c'est que si ça fait plus de 5 mois que vous n'avez pas eu votre dernier vaccin, c'est important d'aller chercher une dose de rappel. L'invitation est donc lancée. Si on revient sur la pré-campagne électorale au Québec, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, reproche à François Legault et à la coalition Avenir Québec de faire un usage inapproprié de fonds publics à des fins partisanes. Son parti demande à la CAQ de rembourser les publicités qui ont été payées par le ministère du Conseil exécutif, ça c'est le ministère du Premier ministre, sur la page Facebook de son chef. Tu sais, on se rappelle que durant la pandémie, on était plusieurs à se connecter sur les conférences de presse à 13h du premier ministre directement sur Facebook. Ça a fait en sorte que la page Facebook du premier ministre a explosé en termes d'abonnés. Et là, aujourd'hui, c'est de la publicité qu'il réussit à faire pour rejoindre un très grand bassin de population, pas nécessairement des militants pro-CAQ. Le Parti conservateur a déposé une plainte, d'ailleurs, à la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale contre François Legault en disant que on parle d'à peu près 102 000 $ en publicité ont été payés par le ministère du Conseil exécutif, donc par le gouvernement, pour la période du 25 juin 2019, donc avant la pandémie, jusqu'à aujourd'hui. Au cabinet du premier ministre, on réplique que toutes les règles ont été suivies et que toutes les publications d'ordre partisan ont été payées par la coalition Avenir Québec et non par le gouvernement. C'est donc à suivre.
Vous écoutez Yasmin Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Je reviens sur la campagne électorale. On a appris hier qu'un des ex-stratèges, tant du gouvernement Couillard que de Dominique Anglade actuellement chez les libéraux, ben il va se présenter à Jean Lesage. Il s'agit de Charles Robert, qui était directeur des relations médias sous le gouvernement Couillard, qui a été directeur de cabinet adjoint de Dominique Anglade. Il va se présenter dans la région de Jean Lesage, qui est tout de même courageux comme décision, puisque toutes les projections ne donnent pas Jean Lesage comme un comté libéral aux prochaines élections. Va-t-il réussir à faire mentir les projections? Va-t-il réussir à faire mentir les sondages? On le sait pas, mais personnellement, je le connais très bien, Charles Robert. Je sais que c'est une personne qui est très habile en communication. C'est une personne qui est très impliquée au Parti libéral. Peut-être va-t-il réussir à se faire un nom à Jean Lesage, à se faire connaître et peut-être se présenter comme une candidature de choix pour ceux qui hésitent encore entre le Parti conservateur du Québec et la Coalition Avenir Québec. Peut-être qu'il pourra se faufiler, on ne le sait pas. Ça reste quand même surprenant parce que s'il y a quelqu'un qu'on s'imagine être une personne, un professionnel de l'ombre et des coulisses politiques, c'est bien Charles Robert. Je pense que tous les journalistes de la colline parlementaire le connaissent très, très bien. C'est ce qu'on appelle un spin doctor, là. C'était lui qui parlait avec les médias pour essayer de ce qu'on appelle les spinner, donc les convaincre de cette déposition du gouvernement ou de la chef du Parti libéral du Québec. D'ailleurs, on peut en parler avec Antoine Robitaille, animateur à l'émission Là-haut sur la colline à Cube Radio et journaliste au Journal de Montréal. Bonjour Antoine.
Mais bonjour Yasmine.
Je parlais de Charles Robert qui était candidat. Oui. Ça a surpris plus d'une personne, ça.
Oui, vraiment, pour les libéraux dans Jean Lesage. Donc, comme tu l'as dit, c'est un spin doctor, comme on dit. Bon, moi, je préfère stratège, mais qu'est-ce que tu veux? Et il a été donc stratège à l'ère Couillard. C'est un peu le grand vizir de la stratégie à l'ère Couillard. C'est un grand ami de Benoît Dutrisac. Et là, je suis fortement ironique. Les deux se détestent.
Ah oui! je connais Charles Robert, oui. Mais je ne le savais pas. Tu m'apprends quelque chose ce matin, Antoine.
Ben, tu sais, à l'époque, Benoît, sur les ondes d'une autre station, il était, comment dire, les libéraux le boudaient complètement.
Ben oui, c'est
Charles Robert qui avait subi les foudres de Benoît Dutrisac pour cette décision-là. Donc, c'est quelqu'un de tranchant, Charles Robert, qui parlait énormément aux journalistes, donc qui connaît vraiment, le jeu politique, là, vraiment. Directeur de cabinet adjoint, c'était son rôle depuis que Dominique Anglade était là. Au début, il était directeur de cabinet, directeur des communications complet. Finalement, il y a eu toutes sortes de modifications de son rôle. Et je trouve que ça illustre bien ce que Mario Dumont évoque dans sa chronique ce matin au sujet de Dominique Anglade. Il dit que ça a été une ère de zigzag dans les positions. Et on l'a senti, ça. Moi, je parlais souvent à Charles Robert avant qu'il tombe en congé de maladie il y a plusieurs mois. Et justement, là, Charles Robert avait des phrases qui nous rappelaient l'ère Couillard en même temps. Sur la place publique, à l'époque, Dominique Anglade essayait de se distancer de l'ère Couillard. Donc, c'était un homme de la continuité à une époque où on voulait du changement. Et ça a été très difficile. À un moment donné, il est tombé en congé de maladie. Et là, il passe donc du silence, parce qu'il est revenu, là, il est revenu de son congé de maladie il y a quelques semaines même. Et là, il arrive dans un rôle, donc il passe du silence et il arrive dans un rôle extrêmement visible, celui de candidat où là, il va pas simplement être en arrière du trône à dire aux journalistes ce que le Dominique Anglade voudrait qu'on écrive, mais plutôt c'est lui qui va prendre position la place publique.
On n'est pas habitué à un Charles Robert devant les caméras. Charles Robert, dans notre tête, à tous ceux qui ont baigné un peu dans la politique et sur la colline parlementaire, c'est quelqu'un qui participe aux coulisses du pouvoir, qui est derrière la caméra, qui scénarise, produit, réalise et spin.
Oui, exactement. Donc, écoute, dans les zigzags que j'évoquais, tu as le nationalisme, le virage à gauche. Je pense pas que Charles Robert
non.
incarne ça du tout. Là. J'ai eu plusieurs prises de bec sur le nationalisme avec Charles Robert. Très intéressante parce que Charles, c'est quand même un gars de contenu, capable de répliquer, mais c'est pas sa tasse de thé. De la gauche non plus, c'est un ancien de l'ADQ, ça faut le savoir, hein, Charles Robert, il aime pas ça quand on lui rappelle ça. Puis il a été beaucoup plus longtemps au Parti libéral qu'à l'ADQ, mais quand même, son entrée en politique, c'est à l'Action démocratique du Québec. Donc, c'est ça, je trouve que cette arrivée-là, c'est une autre illustration des difficultés des libéraux, parce que en temps normal, je pense pas qu'un Charles Robert serait candidat. Je sais pas si c'est ton impression.
Ben moi j'ai l'impression qu'ils en arrachent pour aller chercher des candidats quand on sait pas c'est qui le candidat dans la Lapinière, puis on sait pas c'est qui le candidat dans Robert Baldwin. Il y a un méchant problème pour moi quand on est le 17 août et que la campagne serait déclenchée dans quelques jours.
Bon, justement, j'ai vérifié ce matin. On m'a dit que là, il va y avoir une flopée d'annonces de candidatures chez les libéraux. Le nombre de candidatures serait rendu, là, on se rendrait à 84 sur 125. C'est déjà mieux, là. Je pense que c'était autour de 70 seulement. On va en ajouter. Charles Robert fait partie du lot. Mais c'est ça, ça illustre les grandes difficultés. On parle de Robert Baldwin qui serait aussi compliqué. T'imagines quand tu peux pas remplacer Robert, Carlos Letard dans Robert Baldwin, c'est tragique là parce que c'est en plus c'est pas parce que c'est envoyer quelqu'un à l'abattoir d'aller dans Robert Baldwin pour les libéraux. N'importe qui serait élu. Tu sais, dans Robert Baldwin, tu mettrais là, je sais pas moi, un ancien péquiste, puis je pense qu'il serait élu.
Ah,
donc
oui.
Mais même si, évidemment, c'est une autre difficulté des libéraux actuellement, il y a des partis qui très anti-protection du français qui se présentent. Et tu sais, je pense à Ballarama Holness à Montréal, à Colin Standish en Estrie. Donc, tout ça fait en sorte que c'est sûr qu'il y a peut-être des candidats qui disent « Ah, au lieu d'avoir 84% des voix dans Robert Baldwin, je vais peut-être juste en avoir 64 puis je vais avoir froid dans le dos un peu. »
Ouais, ben, mais... c'est ça. Mais je me demande, Antoine, même dans Lapinière, tu sais, Gaétan Barrette a été un des premiers à annoncer qu'il ne se représentera pas, fait que ça fait plusieurs mois là qu'on était en mesure, qu'on aurait dû être en mesure d'aller chercher une candidature vedette dans Lapinière.
Absolument. Et c'est ça, Lapinière, c'est l'ancien comté de Fatima Houdin-Pépin qui a été là très longtemps pour les libéraux, c'est certain. Et puis, je trouve que ça s'ajoute, la candidature de Charles Robert, bien qu'elle soit intéressante, puis c'est un vrai libéral, tout ça, il y a pas de doute, là, mais il y a aucune chance contre Solzanetti, je pense, et même la coalition Unir Québec qui serait très forte, qui présente une dame qui s'appelle Madame Gamache, là, qui est là depuis... je pense que c'est la deuxième ou troisième fois qu'elle se présente. Donc, il n'y a aucune chance, mais ça représente, ça illustre bien les difficultés des libéraux. J'y reviens parce que, pensons à Charlebourg. Dans Charlebourg, c'est quand même l'ancien comté de François Blais, qui a été ministre de l'Éducation. On a présenté Anne de Blois pendant 24 heures. tu sais, et Anne de Blois, moi, j'ai dit aux gens du Parti libéral, vous m'auriez appelé, là, je vous aurais dit qu'elle n'est pas pantoute libérale. Et Anne de Blois a tenu des propos très, comment dire, inappropriés sur l'islam, sur Twitter, mais aussi, elle était totalement étrangère aux positions de Dominique Anglade. C'est sûr qu'elle avait milité pour le Parti libéral depuis quelques mois. Elle était dans l'exécutif, mais si elle est devenue candidate, c'est qu'il y avait vraiment personne d'autre. Alors, c'est vraiment, comment dire, difficile pour le Parti libéral actuellement dans cette campagne électorale-là. On verra qui on va présenter, mais justement, quand on présente une espèce de flopée de candidats, comme on me l'a dit qu'on le ferait, là, Ça veut dire que c'est des candidats très peu connus. Tu sais, quand tu fais un communiqué, tu dis « Bon, on a présenté 14 candidats. » Les péquistes ont fait ça. 22 candidats d'une claque.
Mais il y avait personne qui les connaissait, personne.
Exactement, exactement.
Sinon, il y a Denis Coderre qui nous a bien eu. Là, il a fait un petit... une petite énigme sur Facebook depuis deux jours. Là, tout le monde attendait de savoir où est-ce qu'il va atterrir. Ben, il l'a, on le sait.
C'est lié à mon premier sujet. Ben oui, il va donc être chroniqueur sport finalement, mais tout le monde a pensé que c'était un retour au Parti libéral, mais là, le PLQ, pas le PLC, parce que c'est quand même un homme du PLC. Avant, on distinguait les deux partis, Yasmine, mais de plus en de moins, je trouve qu'on distingue de moins en moins les deux partis, mais c'est une autre histoire. Et tout le monde se demandait, et il nous a bien eu effectivement, parce que c'est une stratégie de communication, surtout pour un personnage aussi connu que lui, tu sais, de faire ça, là. Et, ben, ça, c'était cousu de fil blanc, c'est clair, mais la rumeur qui était très forte il y a quelques semaines, c'est que Denis Coderre se présentait dans Bourassa Sauvé.
Mais il y a quand même une investiture qui est très chaudement discutée.
Ouais. Là, il y a une investiture, mais j'avoue que j'y ai repensé hier. J'ai dit, coudonc, il va-tu avoir un coup d'éclat ou quoi? Mais effectivement, l'investiture va se terminer le 21 août. Mais c'est très difficile ce qui se passe dans Bourassa Sauvé pour le Parti libéral. L'ancien conseiller, un autre homme de l'ombre qui voulait redevenir... retrouver la lumière, Marc H. Plante, qui était très connu. Tu l'as connu,
Marc H. Plante. Ancien député de Masquinongé.
Un ancien député, effectivement. Et dans les dernières années, il avait été à l'aile parlementaire libérale. Aurait rêvé de se présenter dans Bourassa Sauvé. Ça n'a pas fonctionné. L'exécutif s'est élevé contre un ancien député des régions, alors que là, c'est vraiment une circonscription montréalaise. Et ensuite, effectivement, il y a deux, trois personnes qui étaient très intéressées. Finalement, ça sera une lutte entre Marie Liva Baugé, Chantal Rossi et Madoua Nika Cadet. Et je vais te dire, ça joue dur, ça a vendu des cartes jusqu'au 1er août. Là, j'ai eu de l'information là-dessus. Effectivement, Dominique Anglade, dans une entrevue avec toi,
oui,
si je me souviens bien, elle vantait le nombre de l'explosion du nombre de cartes de membres libérales dans Bourassa Sauvé. Et ça démontre qu'il y a vraiment une lutte. Et là, il y a des candidates qui trouvaient qu'il y en a une qui avait beaucoup de facilité à vendre des cartes et donc il y a eu toutes sortes de ragots qui ont circulé. Et finalement, on sent là, que Dominique Anglade a une préférée, mais elle l'a pas dit encore. Mais tout ça pour dire que là aussi, Bourassa Sauvé, ça aurait dû être
une candidature vedette la chef aurait pu imposer très naturellement dans la circonscription. Sinon, il y a la CAQ qui est favorisée par les règles.
Oui, c'est Martine Biron qui m'a dit ça dans une entrevue. C'était un peu ma chronique d'hier. Martine Biron a fait un mémoire de maîtrise avant d'être évidemment candidate de la CAQ. Mémoire de maîtrise en sciences politiques très intéressant sur justement les élections à date fixe. Et c'est une question importante. Comment les élections à date fixe ont transformé le paysage politique au Québec? Et moi, je l'avais reçu à Cube Radio en entrevue à La Haut sur la Colline. Et on a le temps à La Haut sur la Colline. Bon, on avait pris comme une vingtaine de minutes pour décortiquer son mémoire. Ça, c'est au mois de mai. Donc, elle n'était pas encore candidate. Elle avait une permission de Radio-Canada pour venir à Cube Radio. C'était le fun.
Ben oui.
Et ce qui était aussi intéressant dans ce mémoire-là, c'est qu'elle était très critique quand même de certains éléments des élections à date fixe ou de la nouvelle loi électorale qui a instauré les élections à date fixe. Sur deux plans, par exemple, elle disait que le parti au pouvoir est favorisé par les règles. Premier plan, le déclenchement. Le déclenchement des élections, il n'est pas fixe.
C'est la date du vote qui est fixe.
C'est la date du vote qui est fixe, effectivement. Mais Yasmine, bon, je fais une petite parenthèse, même la date du vote n'est pas tout à fait fixe. On l'a vu avec Pauline Marois. Puis il y a une loi semblable au fédéral, puis on l'a vu avec Justin Trudeau en 2021, mais tout ça, ou Stephen Harper même avant. Donc, tout ça pour dire que, bon, on a des élections à date molle ici. C'est pas comme en France où c'est vraiment fixé, ou aux États-Unis où c'est fixé. Il y a pas de, bon, chez nous, on est en régime britannique, puis on doit constitutionnellement laisser la possibilité au lieutenant-gouverneur ou à la gouverneure générale de dissoudre la Chambre. Mais ça, c'est une question constitutionnelle. Tu sais qu'elle me passionne. On en reparlera là-haut sur la colline. Mais tout ça pour dire que il y a le déclenchement. Donc, dans ces, et là, il y a 4 ou 5 jours là où le premier ministre a le choix. D'ailleurs, on est un peu actuellement en limbo. On sait pas trop.
Hein, si ça va être le 28, le 29.
Ben oui. Bon. Ben, Martine Biron, elle, dans son entrevue, dans l'entrevue qu'elle m'a accordée, elle me l'a dit. Elle m'a dit, oui, on a évalué nos possibilités, puis on a décidé que ce serait dimanche le 28. Alors, je te l'annonce, Yasmine, c'est dimanche le 28. En tout cas, ça vient de la bouche d'une candidate vedette de la CAQ. C'est ça, mais c'est quand même un avantage. Et elle l'écrivait elle-même dans son mémoire de maîtrise que c'était... un grand avantage.
Mais un avantage quand ça nous concerne, ben on aime bien ça, Antoine Robitaille.
C'est ça. Puis l'autre avantage, c'était les pubs. Évidemment, il n'y a pas de calcul des dépenses électorales dans la période préélectorale. Puis ça, évidemment, tu parlais de Facebook tout à l'heure pour ce qui est de la CAQ. On pourrait parler des pubs aussi gouvernementales. Ça aussi. Et vu qu'il n'y a pas de calcul, ben ça avantage énormément le parti au pouvoir.
Antoine Robitaille, toujours un plaisir de te parler. J'espère qu'on va se reparler demain matin.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel. La chronique Argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Bienvenue dans The Price is Right. Et c'est comme ça que j'ouvre la chronique avec Olivier Bourque parce que j'ai évidemment gagné mon pari sur le taux d'inflation qui a été dévoilé hier.
Oui, absolument. Et j'aurais été déçu si j'avais pas entendu la musique de The Price is Right.
Je savais, il fallait qu'on se mette dans le bain. Là. Moi, des paris, j'en prends ce temps-ci.
Oui, t'as tout à fait raison. Et redire aux gens, les auditeurs, c'est que tu m'as demandé hier à brûle pour point quel serait donc le taux d'inflation qui sera annoncé hier. Et j'ai dit 7,5%. Et tu as utilisé la stratégie de The Price is Right. Tu as dit 7,6%. Tu t'es collé sans vergogne.
Sans vergogne.
Et tu as remporté. Et tu as remporté ton pari.
On dit dans mes publicités à Cube Radio que je suis stratégique. C'est là la preuve, là, en fait. C'est comme ça que je le démontre.
Exactement. Mais on dit également dans tes publicités, Yasmine, que tu nuances. Et je vais faire une petite nuance. Où sommes-nous ici? Nous sommes au Québec. Taux d'inflation hier au Québec... 7,3%. Ah ah! 7,3%.
Mais on n'avait pas spécifié ça dans la question. Là. C'est comme la question référendaire. Là. Il nous faudrait une loi sur la clarté référendaire. Là. Regarde.
Ça prendrait une loi sur la clarté référendaire. Je te blague, je te plaisante. Félicitations. Et là, on reconnaît la stratégie politique. Soyons un peu plus sérieux maintenant. Donc, par rapport au taux d'inflation, alors tu l'as dit, c'est ce qui a été annoncé hier. C'était 8,1% en juin au Canada. Ça a descendu à 7,6, comme tu l'avais prédit. Au Québec, 8%, ça c'était en juin, 7,3%. Alors, c'est ce qui a été annoncé hier. Maintenant, la grande question, Yasmine, est-ce qu'on a atteint le sommet en juin? C'est vraiment, tout le monde se pose la question. Les économistes hier, donc certains disent que oui, probablement, notamment donc la Banque nationale, que le pire est derrière nous. Donc le pire, c'était donc le mois de mai, le mois de juin, et que tranquillement, pas vite, ben ça va fléchir, un peu comme le prédit également le ministre des Finances, M. Girard, qui a dit, bon, au troisième trimestre, donc vers la fin de l'année, ça va se stabiliser, ça va descendre tranquillement, et après ça, vers le quatrième trimestre, ça va encore plus fléchir, mais de manière encore plus prononcée. Cela dit, il y a des choses qui ne vont pas disparaître, Yasmine, d'un coup de baguette magique, sincèrement, là. On entend que la chaîne d'approvisionnement, tranquillement, pas vite, est en train de se huiler, donc ça va mieux. Il y a encore, cela dit, des problèmes de pénurie de main-d'œuvre.
Partout.
S'il n'y a pas de gens pour fabriquer, faire la fabrication, c'est là le problème. Alors, c'est ce qui cause aussi une hausse du prix des produits. Et on sait que la pénurie de main-d'œuvre, c'est extrêmement important, non seulement donc ici au Québec, au Canada, mais ailleurs. La guerre en Ukraine, Yasmine, ça disparaît pas d'un coup de baguette magique non plus, là.
Ça non plus, on ne sait pas quelles sont les répercussions qui vont rester à long terme, notamment sur les chaînes d'approvisionnement et sur certains produits des intrants dans les productions manufacturières.
Ouais, intrant, et voilà. Puis on l'a dit plusieurs fois, donc le prix du blé, par exemple, le prix de l'essence, le prix du pétrole, parce que le prix de l'essence, il a descendu parce qu'il y a des craintes de ralentissement économique, de récession. On pense que la demande va baisser, mais grosso modo, encore une fois, donc il y a beaucoup de points d'interrogation. Alors, c'est peut-être donc une accalmie pour l'inflation. On espère que ça va descendre lors des prochains mois. Maintenant, les hausses et les baisses. Allons-y donc pour les baisses. Les baisses, évidemment, il y en a une qu'on connaît tous, le prix de l'essence, on vient de le dire. Sur un mois, Yasmine, c'est quand même assez significatif. Donc, de juin à juillet, on a vu une baisse de 8,5% du prix de l'essence.
C'est quand même important et on le sent à la pompe.
Oui, on le sent à la pompe, évidemment. Donc, la plupart des gens, donc une voiture à essence, donc on s'en est rendu compte. Le prix est à quoi? Environ 1,80-1,85 le prix du litre. Mais il y a des baisses qu'on ressent moins. Puis d'ailleurs, nous, on est allé au marché Jean Talon hier, alors pour le prix des fruits et légumes. Et on a posé la question aux gens, est-ce que vous remarquez qu'il y a une baisse tranquillement, pas vite? Puis franchement, les gens ont dit non, on n'a pas remarqué ça.
Ben, c'est sûr que quand t'es sous le choc au début, là, maintenant, c'est rendu que tu veux juste te tenir loin de ce que tu considères être trop cher.
Ouais, c'est ça. Tu regardes les prix comme ça. Tu veux pas trop les regarder, là. Notamment, on m'a dit, le prix des bleuets qui est encore très élevé. Ouais. Le prix de, par exemple, la douzaine de maïs, des petits blés d'Inde, là. Il y a une dame, j'ai parlé avec une productrice hier, elle a dit 9 $ la douzaine. Elle a dit, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Alors, le prix, quand même, qui reste assez élevé. Mais lorsqu'on regarde les données, encore là, donc, de mois à mois, juin à juillet, ben, on a vu une baisse très petite, cela dit, là, pour les fruits frais, par exemple, de 3% de baisse, 1% pour les légumes, 1% également pour la viande. Alors, tu vois, tranquillement, pas vite, on est en train de descendre. Cela dit, de mois à mois, faut faire attention parce qu'il peut y avoir des hausses des fois très, très frappantes, notamment pour les œufs. Alors, entre juin et juillet, on a vu une hausse de 15%. Et après ça, ça peut redescendre. Il y a toutes sortes de raisons, évidemment, là. Mais, grosso modo, donc, il y a des baisses. C'est ça qui est intéressant. Et il y a des hausses. On l'a dit, les gens sont repartis en voyage. Alors, pour les agences de voyage, le prix a augmenté de 7%. Pour le prix des billets également, je regardais, là, je pense que c'est du 35%, quelque chose comme ça. 26% le prix des billets d'avion. Alors, ça aussi, ça a augmenté. Autre grande question maintenant, Yasmine, que fera la Banque du Canada qui regarde ces données et qui se dit, bon, alors, parce que c'est le 7 septembre qu'on va annoncer encore une fois une hausse du taux directeur, donc des taux d'intérêt. Et Tiff Macklem, hier, le gouverneur de la Banque du Canada, qui a pris la parole et qui a dit, « The job isn't done yet.
» Alors, il faut s'attendre encore des augmentations du taux directeur. Oui.
Absolument, et on s'attend, je te dirais, Banque nationale hier a dit un 0,75 point de hausse, après suivant évidemment celle de 1 point qu'on avait vu il y a quelques semaines.
Ça reste important.
Desjardins, ben reste important, mais c'est sûr et certain que ça aura un impact évidemment beaucoup sur les hypothèques, sur les taux d'intérêt. Mais cela dit, peut-être en terminant sur ce sujet, Yasmine, ça pourrait être pire. J'ai regardé les chiffres d'inflation ce matin de la Grande-Bretagne. Et imagine-toi qu'on est rendu à 10% d'inflation en Grande-Bretagne et on s'attend à 13% le mois prochain. Pourquoi? À cause du prix du gaz. Alors, eux, la guerre, là...
Elle les touche directement.
Elle les touche directement. Alors, c'est bien pire dans certains endroits, notamment en Europe.
Mais, et donc, on parlait du taux directeur qui risque d'augmenter, donc les taux hypothécaires qui vont augmenter. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer, justifier... La baisse des mises en chantier un peu partout au Canada.
Oui, absolument, absolument, parce que des mises en chantier qui sont en déclin, on pourrait dire même en berne, C'est sûr et certain qu'une hausse du taux directeur, donc des taux d'intérêt, l'impact réel sur le terrain, Yasmine, ça se voit entre environ quoi, 12 à 24 mois. Vraiment, là, l'impact. Là. Mais c'est sûr et certain que les gens qui veulent acheter une propriété ou se faire construire une propriété, si tu vas cogner à la banque, à la porte de ton institution financière, c'est sûr et certain qu'en ce moment, on va te poser beaucoup plus de questions qu'il y a 2 ou 3 ans. On va surtout te poser la question, es-tu capable de payer ton hypothèque dans un contexte de hausse des taux d'intérêt où l'hypothèque augmente énormément. Même, on dit à la fin de l'année là, que le taux directeur va se ramasser aux alentours en haut de 4 %. Alors, les taux d'intérêt sont encore plus élevés. Alors, il faut refaire complètement son budget. On pose plus de questions. Les banques sont plus frileuses. Et ça touche, évidemment, donc les mises en chantier. Baisse de 8 % donc au Québec. Les grands centres urbains au Québec, et Yasmine, c'est vraiment des baisses qui sont importantes. Là, j'ai les chiffres ici. Notamment, donc pour Québec, on parle d'une baisse de 56 %. Donc, la ville de Québec. Alors, ça, c'est juillet par rapport à juillet l'an passé. Pour Trois-Rivières, c'est moins 25 %. Montréal, moins 19 %. Je ne fais pas la météo, là, mais c'est vraiment des baisses qui sont importantes. Et il y a certains d'autres marchés où on sent encore de la vigueur, notamment Gatineau, une hausse de 134 %. Saguenay, une hausse de 33 %. Mais le prix, cela dit aussi, le prix des maisons, le prix à la revente, lui, baisse. On anticipe du côté de Desjardins une baisse de 25 % du prix lors des prochains mois. Au Canada, une baisse de 17 % au Québec.
Et en terminant, Olivier, les résultats de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est aujourd'hui qu'on va connaître ça.
Oui, exactement. Alors, ça se fera au magnifique siège social donc du centre-ville. On va se rendre tantôt à 9 heures, donc il va falloir y aller assez rapidement. Charles Lémont y sera pour répondre aux questions. Tu sais que ça avait été mis en place, les résultats de mi-année, après la débâcle de 2009. Alors, Henri-Paul Rousseau, on s'en rappelle, c'est Michael Sebia qui, après ça, donc, avait décidé de mettre en place des résultats de mi-année. On s'attend évidemment à ce qu'il y ait une certaine baisse parce qu'on a vu les marchés boursiers qui ont quand même descendu pendant plusieurs mois. Là, ça remonte tranquillement pas vite. Mais on aura d'autres questions également pour M. Aymond. Tu te rappelles qu'on a beaucoup parlé de Celsius Network?
Oui.
Cette espèce de... Ben oui, la banque de crypto-monnaie, la caisse qui a mis quoi 200 millions là-dedans et on pense que la caisse va perdre toutes ses billes. Alors, c'est le genre de questions qu'on va lui poser sur son salaire. Tu te rappelles, on avait beaucoup parlé de son salaire au printemps. Alors, on aura l'occasion de s'entretenir avec lui, les journalistes, et on vous reviendra avec l'information demain.
Je suis pas mal sûr qu'on va en parler demain. Olivier, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Et pas de gageure demain. Là.
Non.
Salut.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Vous l'avez peut-être vu dans le Journal de Montréal, mais on parle de Mme Godbout-Mailloux qui se faisait opérer pour retirer son utérus et ses trompes utérines. Mais voilà que l'équipe médicale responsable de sa chirurgie aurait oublié, tenez-vous bien, une poire de lavement dans son vagin, découverte seulement 7 semaines après l'opération. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Nadia Godbout-Mailloux. Bonjour, Mme Godbout-Mailloux.
Bonjour.
Donc, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte on vous a opéré puis qu'on a oublié cet instrument?
Bien, en fait, j'ai eu une opération, une hystérectomie, en fait, sur la laparoscopie. C'est ça, la poire a été utilisée. En fait, là, ils ont montré tout l'objet là dans les médias, mais c'est seulement la poire, l'objet, la partie en caoutchouc, là, le bout vert. Là.
Oui, ce qu'on a vu à la télévision, en fait, c'est seringue avec une boule verte là, qui est en caoutchouc.
Oui, mais c'est ça. C'est la boule verte là, qu'on a qu'ils ont oubliée à l'intérieur. Là. Cet objet-là sert à retenir les gaz à l'intérieur de l'abdomen là, pendant l'opération.
Et vous, dès que vous êtes sorti de votre opération, les douleurs ne se sont jamais finalement arrêtées?
Il réussissait quand même à contenir les douleurs là, avec la médication et tout. Mais il restait quand même une douleur... comme je disais à la télé, aux journalistes, c'est une douleur...
Une douleur continue, là?
Oui, une douleur constante. C'était une douleur irritante. Là. C'est comme si ça égratignait. Là.
De l'intérieur, je comprends. On comprend ce que vous essayez de nous exprimer. Et là, vous êtes allé voir là, vos différents médecins, notamment votre gynécologue.
Oui, c'est ça. Ma gynécologue n'était pas là. On m'a dit d'aller consulter à l'urgence. Mais comme c'est ça, je voulais pas attendre là avec la douleur que j'avais. Fait que je suis allée au privé parce que mon médecin de famille était à une heure de route. Fait que je voulais pas faire la route non plus parce que je voulais pas. Fait que je suis allée consulter au privé. Et c'est ça. Il m'a examinée et on est venu à la conclusion, là, selon mes symptômes, que j'avais peut-être une infection urinaire. Donc, il m'a fait une analyse d'urine, m'a envoyé avec mes antibiotiques à la maison et c'est ça. Je suis restée avec ma douleur
et ça n'a pas.
J'ai pris mes antibiotiques et ça n'a pas enlevé.
Est-ce que le médecin a pris votre douleur au sérieux dans le sens de faire un examen gynécologique en bonne et due forme, pour d'autant plus que vous veniez de subir une opération?
Il n'a pas fait d'examen gynécologique, non, mais c'est ça. Il n'a pas eu d'examen fait à ce moment-là.
Comment on réagit lorsqu'on apprend que l'on a oublié à l'intérieur de nous un objet, un instrument médical que c'était pas supposé?
Je sais même pas encore comment on réagit. C'est comme le pire cauchemar.
Et vous?
On pense que ça arrive juste aux autres parce qu'on a tous lu des histoires d'horreur comme ça dans les journaux. On pense pas que ça peut nous arriver. Mais là, c'est nous, là. Fait que
Est-ce qu'il y a des séquelles, qu'on prévoit que vous allez vivre à plus long terme de cette mésaventure?
Présentement, c'est une douleur constante qui va rester, en fait. Quand je suis assise trop longtemps, mettons à 90 degrés c'est difficile de rester longtemps dans cette position-là. Quand je suis debout trop longtemps, d'une position statique, j'ai des spasmes, des chocs électriques qui viennent. C'est difficile au niveau des relations intimes, c'est sûr. J'ai aussi de l'arthrose au niveau de la symphyse pubienne. C'est des injections que j'ai dû subir au niveau de la symphyse.
Les conséquences sont quand même assez importantes. On le comprend et que ça mine votre quotidien malgré le fait qu'on ait retiré finalement cet instrument. Madame Nadia Godbout-Mayou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite des choses et nous allons suivre le dossier pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cette poursuite que vous avez intentée contre les deux médecins et l'hôpital.
Bien, merci beaucoup, Madame Delphanel.
Au revoir.
L'actualité peut être caniculaire. Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel-Fadel.
En ces temps de pénurie d'emplois, pénurie de personnel, on parle de plus en plus des raisons qui amènent les travailleurs à quitter un emploi. Et on apprend qu'on peut quitter une entreprise à cause de son patron, mais aussi à cause de ses collègues. Dans un sondage non scientifique, c'est important de le dire, là, une mini-enquête effectuée sur LinkedIn, on apprend que 335 personnes qui ont répondu à la question « Dans les 6 derniers mois, avez-vous songé à quitter votre emploi à cause d'une relation au travail? » 11% ont répondu « Oui » à cause d'un collègue et 16% qui ont répondu « Oui » à cause d'un collègue ou un supérieur. Nous avons avec nous Jenny Ouellette, cofondatrice et présidente de bonboss.ca. Bonjour, Madame Ouellette.
Bonjour.
Alors, pourquoi avoir voulu enquêter sur cette question, sur la question des facteurs qui amènent un travailleur à quitter un emploi?
C'est sûr que nous, on s'intéresse vraiment à tout ce qui est un bon gestionnaire, mais aussi les relations au travail. Et on entend souvent l'expression « on quitte un gestionnaire plutôt qu'une entreprise ». Et je soupçonnais qu'il y avait plusieurs autres facteurs qui pouvaient justifier justement un départ. Et la question des relations au travail était vraiment pour moi au cœur de mon questionnement. Et je voulais savoir, est-ce que c'est simplement pour le gestionnaire ou il y a plus que ça? Donc, c'était la raison derrière le sondage. Et au total, 46% des répondants ont mentionné que c'était oui en raison d'une relation au travail. Donc, ça pousse la réflexion un peu plus loin, là.
Quel rôle pensez-vous que ça joue, les relations de travail versus les conditions de travail? Est-ce que les conditions de travail gardent leur poids malgré des relations de travail difficiles?
C'est sûr que les conditions de travail, l'environnement dans lequel on travaille, l'horaire par exemple, ou si je dirais même jusqu'à la rémunération globale, ont un facteur, ça va bien. Ils ont un facteur vraiment positif par rapport au fait d'être bien dans son travail et tout. Et aussi peut justifier le départ, mais par contre, les relations au travail, c'est-à-dire les relations qu'on peut entretenir avec un collègue, avec une équipe, avec le gestionnaire, ça, selon moi, c'est vraiment une question à laquelle on doit commencer à réfléchir, là. Comment générer des relations saines et comment intervenir, par exemple, lorsqu'il y a des gestes d'incivilité, donc de manque de respect, ou même plus loin, l'harcèlement, la discrimination, tout ça est des facteurs qui peuvent vraiment mener à des départs, là.
Est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres dans la question des relations de travail comme un des facteurs principaux pour quitter un travail?
Je ne pourrais pas répondre à la question. On n'a pas segmenté les répondants. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a vraiment une distinction entre les relations au travail, par contre, donc le système relationnel, et également les relations de travail. Les relations de travail, c'est tout ce qui pourrait avoir, par exemple, un peu plus le côté légal, là, convention collective et tout. Là. Donc ça, c'est vraiment important de distinguer les deux. Mais dans la mini-enquête, là, on n'avait pas segmenté le tout.
Chaque année, vous faites un sondage pour savoir qu'est-ce qu'un bon boss. Quels sont les points qui ont été soulevés par les employés dans les dernières années? Et je sais que vous n'avez pas encore les chiffres de 2022, mais d'après vous, ça s'enligne comment?
En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on pose la question depuis 2017. Et depuis 2017, c'était sensiblement la même chose. Donc, un bon boss écoute, inspire, c'est plus un mentor ou un coach. Grâce à lui, je peux progresser dans mon travail ou devenir meilleur dans mes compétences. Donc, c'était au début vraiment ce qu'on pouvait voir comme tendance. Avec le temps, donc à l'arrivée de la pandémie, le télétravail, là, on a vu des changements dans les réponses. Et ce qui a été le premier changement, c'est qu'auparavant, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'un bon boss partageait sa vision. Et par la suite, à partir de 2020, on a vu que cet énoncé-là est devenu vraiment, s'est fait déclasser en fait. Et ce qui a pris la place de cet énoncé-là, c'est qu'un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui fait preuve de flexibilité et qui est compréhensif. Donc, la notion de flexibilité, bienveillance au travail était devenue vraiment plus importante à partir du moment de la pandémie. Ce qu'on a vu aussi comme tendance dans les réponses, c'est qu'un bon boss est sécurisant. Et ça, c'est ce qu'on a remarqué dans le début de notre analyse de cette année. C'est que l'aspect de sécurité, un peu plus psychologique, donc quelqu'un qui, avec lui, je sais à quoi m'attendre, c'est quelqu'un qui me fait confiance, donc c'est quelqu'un aussi qui voit ma santé mentale dans la mesure du possible. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment ressorti dans les énoncés et le fait de partager sa vision ne semble pas être encore revenu dans le top 5 des réponses. Donc, un bon boss, c'est quelqu'un, je dirais, qui écoute, qui est un bon mentor, quelqu'un qui inspire, donc qui prêche par l'exemple et qui voit au bien-être de ses employés, là.
Jenny Ouellet, on va surveiller les résultats qui devraient sortir en septembre de votre sondage annuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et présidente de bonboss.ca.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio. Culture et société.
Ah, Marika Simard, tu nous reviens en forme, je vois ça. Et tu nous parles des acteurs principaux qui vont composer la famille Adams.
Oui, la famille Adams qui a pris quand même plusieurs formes au cours des dernières années. Bon, ça nous a d'abord été présenté comme une émission télévisée, une espèce de série dans les années 60. Puis ça a pris la forme de plusieurs films, des films à gros budget dans les années 90. Ça a été ensuite une comédie musicale sur Broadway en 2010. Plus récemment, bon, ça a été adapté en deux longs métrages d'animation. Et là, encore plus récemment, on apprenait que ça allait être adapté en série, que ça allait être adapté donc sur Netflix et en exclusivité par le magazine donc Vanity Fair. On apprend qui incarnera les personnages principaux. C'est Jenna Ortega, qui a 19 ans, que vous connaissez peut-être pour ses rôles dans les séries Jenna, The Virgin et You, qui incarnera donc le personnage principal de Mercredi. Elle succède donc à Christina Ricci, qui a incarné le personnage principal dans le film culte au début des années 90. C'est Catherine Zeta-Jones qui sera la mère de Mercredi. Oui, je vois tes grands yeux qui...
J'aime beaucoup.
Ensuite, c'est Louis Guzman, son père, qui interprétera donc son père, et finalement le frère de Mercredi sera interprété, oui, par Isaac Ordesa. Et c'est Tim Burton qui sera producteur exécutif et réalisateur de 4 des 8 épisodes qui seront présentés sur Netflix. Il a été choisi évidemment pour contribuer à l'univers visuel de cette série, mais aussi parce qu'on a voulu insuffler au personnage un caractère de dessin animé. Alors je trouve ça très intéressant, je suis vraiment curieuse de voir les premières images, parce que là, tout ce qu'on nous a présenté, c'est une affiche. Ce sont donc exclusivement que des photos, que des images.
Statique.
Oui, exactement. Donc, pas encore de bande-annonce, mais on sait que la série donc est attendue sur Netflix cet automne. Faut être patient.
On va essayer d'être patient et de suivre ça. Ça risque d'être très intéressant. J'essaie de voir le mélange Catherine Zeta-Jones, Tim Burton, tu sais... Ça va donner quelque chose d'assez...
Ça va être éclaté.
Éclaté, exactement. Ouais. Sinon, ben malheureusement, le réalisateur Wolfgang Petersen est décédé hier.
Ouais, c'est ce qu'on apprenait tard hier soir. Il est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 81 ans. Bon, ce que rapporte le porte-parole par voie de communiqué, c'est qu'il serait mort dans son domicile à Los Angeles, dans les bras de son épouse. Et vous le connaissez peut-être pour avoir dirigé les films 3, notamment, et L'Histoire sans fin. Vous savez, hein, cette magnifique adaptation du livre qui porte le même nom. Finalement, il a aussi réalisé quelques films d'action, dont La ligne de mire et Alerte. Donc, une grande perte pour le monde du cinéma, l'industrie du cinéma.
Ça a été, son décès a été souligné par plusieurs acteurs et mondes, et acteurs impliqués évidemment dans Hollywood, et pas juste des acteurs, évidemment, toutes les parties prenantes. C'était une personne qui était très importante dans le paysage médiatique hollywoodien. Sinon, il y a A$AP Rocky, impliqué dans une fusillade avec un nom de même. C'est Rocky, c'est rock'n'roll.
C'est rock'n'roll, c'est le cas de le dire. Je voulais revenir sur cette histoire parce que j'en avais parlé à quelques reprises depuis le début de la saison. D'abord, le rapper A$AP Rocky, qui est aussi le conjoint de Rihanna, avait défrayé les manchettes au début du mois de mai parce qu'il venait tout juste de nous annoncer donc qu'il était nouvellement papa. Par la suite, je vous en parlais parce qu'il était l'une des têtes d'affiche du festival Oshiaga qui se tenait à toute fin du mois de juillet. Il avait annulé sa participation pour les raisons qui suivent. Donc, il a d'abord été interpellé par la police le 20 avril dernier à l'aéroport de Los Angeles. Il est alors suspecté d'être impliqué dans une fusillade survenue en novembre 2021. Finalement, Yasmine a été inculpé, oui, pour son rôle dans une fusillade. Finalement, il est visé par deux chefs d'accusation pour agression avec une arme semi-automatique, selon le bureau du procureur de Los Angeles. Il est soupçonné donc d'avoir pointé son arme vers un ancien ami lors d'une dispute, puis d'avoir tiré sur lui à deux reprises plus tard, lui infligeant ainsi une blessure légère. Donc, il devrait paraître en cours aujourd'hui.
Je suis toujours flabbergastée, puis c'est vraiment juste le terme qui me vient quand je vois des acteurs du monde de la musique, par exemple, comme ce rappeur qui a de l'argent, qui va être papa, tu sais, qui... Il me semble que tu as une vie, puis là, tu prends une arme, tu vas tirer sur un ami. Qu'est-ce que tu cherches à prouver avec ça?
Effectivement, et ça ramène aussi tout le débat des armes à feu, la légalisation des armes à feu, là. C'est pas un bel exemple à donner, surtout quand, justement, on est connu comme ça et qu'on a cette possibilité de pouvoir changer les choses et puis influencer le cours des choses. Donc, ouais. pas un bel exemple à suivre, les SAP Rocky. Même que vous aimiez ou non sa musique.
Sur ces sages paroles, Marika Simard, toujours un plaisir. On se retrouve demain.
Oui, avec plaisir.
Yasmine Abdel Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio. Cube Radio.
Après Aliments du Québec, les aliments équitables et toutes sortes de labels qui sont accolés aux différents produits, voilà qu'il y a cette idée d'avoir des produits qui pourraient être étiquetés par rapport à leur actionnariat. Et je m'explique, c'est lorsqu'il y a une propriété féminine de l'entreprise, pourrait y avoir une étiquette ou un label qui pourrait le permettre d'identifier ces produits. C'est une idée qu'a poussé le réseau des femmes d'affaires du Québec et on a le plaisir d'avoir avec nous sa présidente directrice générale, Madame Ruth Vachon. Bonjour Madame Vachon.
Bonjour Madame Abdel Fadel, merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Alors expliquez-nous ce projet, ça vient d'où et ça quel objectif précis?
D'abord, c'est un objectif qui est très précis, c'est de faire connaître, d'identifier les entreprises qui appartiennent à des femmes. Nous, ça fait déjà 40 ans qu'on soutient les femmes, mais ça fait 11 ans qu'on le supporte d'une façon très directe avec une certification qui garantit que ces entreprises-là appartiennent bien à des femmes. L'enjeu part de les femmes ne sont pas représentées dans les marchés actuellement, c'est moins de 5% des achats des grandes entreprises qui sont consacrées aux entreprises qui appartiennent à des femmes. Alors, pour les aider, il faut d'abord commencer par être capable de les identifier. Puis quand je parle d'identifier, je ne parle pas d'identifier dans un label sur un produit, mais je parle d'identifier dans un registre, qui est une phase. Parce que l'identification sur le produit vient en dernier. Okay, on a fait un article comme ça, mais je veux dire, mais avant ça, il y a quand même du travail de terrain à faire, ce qu'on fait, nous, depuis 11 ans, pour être capable de s'assurer que sur un label qui pourrait arriver sur une tablette, par exemple, qu'on ne se ramasse pas avec une entreprise qui a décidé de se mettre un sceau pour être capable de faire la promotion de son produit.
Alors, ça ne serait pas nécessairement un label collé au produit, ça serait plutôt une stratégie de visibilité des entreprises à actionnariat féminin?
Ben la stratégie d'identification sur le produit ne vient pas en premier. En premier, c'est je dois certifier mon entreprise. Comme par exemple, il y a eu le démarchage pour le produit Québec. Là, nous, c'est ce démarchage-là, on le fait depuis 11 ans avec des firmes extérieures qui sont de classe internationale et qui font le travail pour nous. Alors, pour nous, c'est comment on peut s'assurer qu'elles répondent aux critères de la propriété féminine. Ensuite, on s'en va dans un registre et après, il y a un sceau qui vient et là, ben, libre à nous de le mettre sur un produit ou de ne pas le mettre sur le produit. Alors, c'est pas dans le très compliqué, mais il faut quand même agir dans la règle de l'art pour s'assurer que le label représente bien ce qu'on veut qu'il dise.
C'est quand même une nouveauté puisque les autres labels, puis là on pense à Aliments du Québec ou nécessairement les produits équitables, ils concernent les produits et non la structure de ceux qui détiennent l'entreprise. Alors comment vous allez vous assurer, en fait comment expliquer ça que là on va se baser sur, pas le produit, mais sur le propriétaire de l'entreprise. Et est-ce qu'il y aura des critères pour déterminer à quel point on considère que c'est une entreprise féminine? Est-ce que ça doit être un actionnariat de 50% plus 1? Ça va être quoi vos critères?
Mondialement, les critères sont les mêmes. Un actionnariat majoritaire est 51% et plus détenu par une femme, géré, contrôlé par une femme et l'entreprise doit résider dans le secteur où la certification se fait et avoir des états financiers qui permettent de certifier cette entreprise-là parce qu'en même temps, nous, la certification sert aux grandes entreprises à leur garantir que ces entreprises-là sont capables de fournir à la demande en plus d'être carrément des entreprises qui sont à propriété féminine. Et cette norme-là, c'est de classe mondiale. Moi, j'ai été mandatée par le gouvernement pour établir la norme ISO qui se passe dans les bureaux de normalisation en Suède. On était 46 pays à déterminer quelle est vraiment la définition de l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'on sait qu'en arrière de ça, ce serait très facile d'avoir des entreprises de façade, des entreprises qui sont achetées par des intérêts autres et qui, par exemple, mettrait quelqu'un en poste dans la gestion et on classerait ça comme une entreprise qui appartient à une femme. Alors, ce n'est pas le cas. Nous, l'audit qu'on fait dans les organisations via nos organisations mondiales, c'est ça. C'est d'aller valider que ce ne sont pas des entreprises de façade, mais que ce sont bien des entreprises qui appartiennent à des femmes. Maintenant, est-ce qu'au Québec, étant donné qu'on n'a pas de loi, on pourrait décider que ces entreprises-là sont classées féminines à partir de 25%, comme par exemple certains dans le secteur financier, c'est à peu près ce qu'on fait. Mais là, on est vraiment plus à l'étape de la réflexion, mais mondialement, c'est 51%.
Au-delà des chiffres, est-ce qu'on cherche à faire la promotion des entreprises à propriété féminine dans l'achat du, par exemple, le commerce au détail, ou est-ce qu'on cherche à augmenter leur part dans la chaîne d'approvisionnement?
Dans notre secteur, c'est plus dans les chaînes d'approvisionnement. On sait que tantôt, on parlait de, ce sont des produits qu'on qualifie, puis là, on va qualifier un actionnariat. Ça fait aussi partie d'un mouvement, hein. Ça fait partie d'un grand mouvement qui est très favorable envers l'inclusion, l'équité puis la diversité. Et quand on rencontre les grandes entreprises qui nous disent, Ruth, on veut bien, mais on ne sait pas où les trouver. Alors, avec la Caisse de dépôt, on a fait monter une plateforme qui tient un registre des entreprises qui appartiennent à des femmes. Alors, quand quelqu'un veut donner des contrats plus spécifiquement à des entreprises qui appartiennent à des femmes, ben, on va aller dans ce registre-là. Mais on s'entend que ça en prendrait plus que ça. On en a beaucoup, mais ça en prendrait, il y en a beaucoup plus que ça au Québec. Fait qu'imaginez quand on se rend au consommateur qui dit, ben moi, j'aimerais acheter un produit du Québec, mais j'aimerais ça aussi que ce soit une entreprise qui appartienne à une femme. Comment lui, il peut le savoir? Alors, c'est une des façons de le faire, c'est de rendre cette propriété-là visible sur le produit.
Madame Vachon, j'aimerais vous entendre sur la capacité des femmes d'affaires au Québec à se financer, notamment à travers des sources de financement qui ne sont pas, disons, classiques et traditionnelles, par exemple le capital de risque. Quelles sont les actions qui peuvent être portées pour pouvoir propulser les entreprises à propriété féminine?
D'abord, il y a beaucoup d'argent de disponible dans le moment. Il y a beaucoup d'organisations qui ont mis à la disposition des entreprises qui appartiennent à des femmes des fonds particuliers. On a aussi un travail de fond parce que c'est pas nécessairement dans la nature féminine d'aller en capital de risque en premier ou même en second lieu. Alors, on a un travail de sensibilisation à faire. Et là-dessus, Evol, qui est une organisation avec qui on collabore énormément, travaille très fort à sensibiliser ces entreprises-là. Il y a de l'argent qui est disponible, mais il y a, comme je vous dis, un travail encore de fond, de sensibilisation pour mieux accompagner ces femmes-là à aller dans un mouvement de capital de risque pour faire grandir leur entreprise plus rapidement.
Donc, on est encore dans les balbutiements des efforts en ce sens?
Ben, c'est-à-dire que c'est des efforts qui sont en évolution constante. On n'arrête pas de faire des efforts, on a des gains, mais tout n'est pas gagné. Alors, à chaque jour, on investit un peu plus. Et nous, c'est l'accès au marché pour les femmes. Evol, c'est plus la section du financement, le soutien au financement. Et nous, c'est comment on peut ouvrir des portes aux femmes. Et la Label en est un. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les grandes entreprises disent, on ne sait pas où les trouver. Alors, c'est hyper important pour nous d'amener. Puis, ça n'existe pas au Québec non plus, un registre pour les entreprises qui appartiennent à des femmes. Alors, ça ne peut pas être, par exemple, une auto-déclaration. Je ne peux pas m'auto-déclarer parce que c'est un petit peu trop simple. Ça prend quelque chose. Quoique c'est certain qu'on ne veut pas ajouter énormément de bureaucratie, là, mais de notre côté, c'est ça qu'on fait d'une façon naturelle.
Mais parlons-en, disons que je suis propriétaire d'une entreprise, je suis une femme, l'actionnariat est féminin et je souhaite être certifiée. Comment pouvoir l'être? Quelles sont les étapes?
Les étapes, d'abord, nous, on travaille. Nous, la certification, c'est l'outil dont on se sert pour faire la promotion des entreprises qui appartiennent à des femmes et s'assurer qu'on n'est pas en train de vendre une entreprise de façade à une grande organisation. Alors, la première étape, c'est vraiment de communiquer avec nous pour qu'on voit est-ce que cette certification-là devrait se faire avec le groupe des Autochtones, avec le groupe des minorités visibles, avec les femmes tout simplement, ou encore avec le groupe LGBTQ. Alors, nous, on est des aiguilleurs pour s'assurer qu'on les envoie au bon endroit. Et nous, le réseau, on travaille avec toutes les organisations qui font la certification des entreprises.
Combien il y a d'organisations qui en font d'ailleurs?
Il y en a 5-6 qui sont très connues au Canada. 2 pour les femmes, 1 pour les Autochtones et les minorités visibles ensemble, 1 LGBTQ et 1 autre pour les aveugles, les malentendants.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est entré en contact?
Ensuite, c'est que ton nom se ramasse dans une base de données et les grandes entreprises de classe mondiale qui ont des programmes de diversification, qui cherchent à diversifier leur chaîne d'approvisionnement, vont sur ces bases de données-là et essaient de trouver des femmes ou encore leur partager des appels d'offres pour qu'elles aient la chance de soumissionner sur des appels intéressants pour elles.
Et j'imagine qu'il y a une autorisation de l'utilisation d'un certain logo pour dire qu'on a été certifié?
Oui, tout à fait. Après la certification, il y a un logo qui est émis. Et puis, c'est ce que les femmes se servent, numéro d'identification, pour dire, voilà, j'ai une entreprise certifiée et je désirais rentrer dans vos chaînes d'approvisionnement. Et il y avait aussi Walmart, il y a quelques années, qui a fait un sondage auprès de sa clientèle. Et on a découvert que quand une entreprise, quand un client sait qu'une entreprise est détenue par une femme, que la cote de crédibilité du produit augmente énormément, alors Walmart a mis sur le marché une étiquette que les femmes peuvent apposer après la certification qui dit « entreprise à propriété féminine ». Et c'est très... ça fait un bon bout de chemin. Ça existe depuis quelques années. Alors, c'est pour ça qu'on pense que de généraliser cette expérience-là pour être favorable pour les entreprises qui appartiennent à des femmes.
Est-ce qu'il y a des coûts qui sont associés à cette certification pour les entreprises?
Oui, il y a des coûts, mais c'est quand même pas très élevé. Ça varie de 750 à 1000 $. Alors, c'est pas très élevé pour le rendement que ces entreprises-là peuvent obtenir en échange.
Parfait. Et à partir de quand on va pouvoir voir ces étiquettes, par exemple, sur les produits éventuellement, parce que vous dites que c'est la dernière étape, mais quand est-ce qu'elle arrive, cette étape?
Faut comprendre qu'on est à l'étape de la discussion. On a rencontré le premier ministre au mois de juin lors de notre conférence Cap vers la réussite. Les discussions ont continué avec le cabinet du premier ministre, maintenant avec le ministère de l'Économie. On sait qu'on est en période électorale, alors dépendamment de l'intérêt du gouvernement qui sera en place après. Nous, on n'arrête pas la machine. Alors, on ne peut pas penser à voir ça sur des produits avant 2 ans, là, parce que c'est quand même un processus qui est assez long. Mais je dirais de mi-2024 pourrait être une possibilité intéressante.
Madame Vachon, vous êtes présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir. Merci.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Tom Mulcair, bonjour.
Hey, salut Yasmine.
Étais-tu aussi surpris que moi de voir hier dans les médias que le PLQ va présenter Charles Robert dans la circonscription de Jean Lesage à Québec?
Oui, et c'est toute une prouesse parce que Charles Robert est exactement le genre de candidat vedette qui pourrait quand même asseoir une certaine autorité sur les autres candidats dans la grande région de la capitale nationale. Puis, ça s'est déjà écrit et dit 100 000 fois, mais je vais ajouter ma voix, La ville de Québec, la grande région de la capitale nationale, c'est complètement autre chose par rapport au reste de la province. Et c'est eux autres qui décident d'élection en élection. Moi, je me souviendrai toujours lors de la fameuse vague orange de 2011. J'avais été invité par les avocats de l'État du Québec parce que c'est un dossier que je connaissais bien, aller prononcer un discours. J'étais là avec nos candidats, surtout assez jeunes de cette région-là. Puis on a raflé tous les sièges. Et ils avaient travaillé fort. Personne nous a vus. Mais alors, personne nous a vus sur leur écran de radar. On n'était pas dans les sondages, rien. On a tout gagné. Ça, c'était dans une élection fédérale, évidemment. Charles Robert est de cette trempe-là. C'est un gars super solide, posé, expérimenté. Et lui, il va pouvoir juste regarder l'entrevue qu'il a donnée au journal La Presse. Ça se sent que le gars, il sait de quoi il parle, il sait livrer une ligne. Il dit, on lui dit, mais vous êtes nulle part dans les sondages. Il dit, oh, très souvent, le Parti libéral du Québec était nulle part dans les sondages et pourtant, on a formé le gouvernement 4 fois. T'sais, est-ce qu'on peut arrêter de s'énerver avec ça? Donc, ça c'est le genre de personne dont Dominique Anglade avait tellement besoin. Donc, il a de longs états de service. Il était avec des ministres comme Laurent Lessard et Élise Thériault. Il était avec Couillard. Il était avec Anglade. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la campagne libérale qui s'amorce.
Mais c'est la question que je me pose, c'est Jean Lesage. Je sais qu'il est de la région de Québec, mais reste que Jean Lesage, il n'y a aucune projection, aucun sondage qui donne les libéraux gagnants dans cette circonscription-là, alors qu'on sait qu'il y a encore des places dans la grande région de Montréal qui sont plus favorables au PLQ. Quand on parle de Lapinière, de Robert Baldwin, de Bourassa Sauvé, qui n'ont toujours pas de candidat, est-ce que Mme Anglade aurait dû le présenter dans un comté plus gagnant?
Ben moi, je pense qu'on a un heureux, pour les libéraux, vu de leur point de vue, on a un heureux mélange d'un gars super solide, très expérimenté et qui veut faire vraiment une différence à Québec et qui peut, justement, si le vent tourne, gagner et amener du monde avec lui. Oui, c'est sûr, tu le mets dans le West Island, ben oui, j'ai assez vécu dans le West Island pour connaître les résultats des élections, merci. Mais c'est pas ça cette fois-ci. Cette fois-ci, les libéraux était justement en train de se rétrécir et de se rétrécir et de se rétrécir autour de leur comté fief de l'île de Montréal. Et ça leur donne un petit peu de respiration. Sol Zanetti est un très, très bon politicien. Okay? Il s'est distingué, il a gagné ce siège-là, ce qui était peut-être la première pièce de preuve que c'est un bon politicien de gagner ce siège-là. Mais c'est pas garanti cette fois-ci. Puis c'est vrai que, comme je le disais tantôt, le NPD était dans aucune projection, aucun sondage, non plus. Mais les gens de la région de Québec, c'est eux autres qui décident. Puis si, justement, Dominique Anglade, elle a une chose à faire cette fois-ci, montrer aux 60 % des Québécois qui ne veulent pas de François Legault, parce que Legault, il traîne dans les 40 %, ce qui veut dire, Yasmine, que 60 % des Québécois veulent autre chose, mais la prouesse de Legault, c'est qu'il a une opposition parfaitement fracturée pour lui. Donc, même s'il reste dans les 37-38 % qu'il a eu la dernière fois, il vogue allègrement vers une victoire majoritaire solide. Comme
une
la
large
fois.
Majorité.
Oui, parce qu'on regarde les chiffres, les libéraux. Ils ont une chose en leur faveur. Justement, on parle de Montréal, Grand Montréal et tout ça. Leur vote est assez efficace. Il est assez bien concentré. On va regarder quelqu'un comme Sal Paulo, qui est à Laval-des-Rapides, juste de l'autre côté du pont. Et lui, il va avoir une bonne bataille, parce que la CAQ a présenté une candidate solide. Mais c'est ce genre de bataille-là qui va déterminer si, justement, les libéraux demeureront une force en présence comme ils l'étaient la dernière fois. Quand même quand ils ont perdu avec Couillard la dernière fois, ils ont quand même formé une opposition officielle assez large, mais pas très solide, parce qu'ils n'étaient pas très bons comme opposition officielle, parce qu'il y avait trop de personnes de la dernière mouture qui s'étaient présentées avec eux autres. Ils n'avaient pas faim. Ils attendaient jusqu'à ce que quelqu'un d'autre fasse le travail pour qu'ils retrouvent leur limousine. Et c'était un travail d'opposition vraiment extrêmement faible, jamais concerté, jamais bien organisé. Québec solidaire va avoir maille à partir dans certains comtés, parce que la CAQ ne le fera pas de quartier. Pensons, non. On en a déjà parlé, mais pensons quand même à Caroline Saint-Hilaire dans Sherbrooke. Elle va donner du fil à retordre à la solidaire qui est là. Donc, le Parti québécois malheureusement pour eux autres, comme beaucoup d'autres analystes, moi je regarde ce qui se passe pour eux autres, je pense qu'ils vont avoir du mal à garder un ou deux sièges dans cette élection-ci. Donc c'est quand même, dans la grande région de Québec, les troubles faits vont être joués par Éric Duhaime, toi et moi on en a parlé un peu cette semaine. Duhaime est très solide dans la grande région de Québec, ses chiffres vont chercher presque 20%, ça c'est énorme. À 20%, tu gagnes des sièges. Donc la question est de savoir, est-ce que les libéraux peuvent espérer se tailler une place, moi je dirais que la campagne va être plus déterminante que les gens croient. Parce que regarde des dossiers comme la fonderie Horn, par exemple.
Ben oui, j'allais en parler d'ailleurs, plus de finir.
Ben, c'est tellement bien dit. Mais c'est le genre de dossier où quand tu contrôles toute la cuisine de la colline parlementaire, tous les ministères, tous les sous-ministres, tous les dirigeants d'organismes, tu es propriétaire de la marmite et de toutes les couvertes de la marmite. Tu es supposé de pouvoir finir cette affaire-là. Ce truc-là est en train de les hanter. Parce que ça révèle quand même un fond. À la CAQ, là, oublie ça. Là. Les locataires, là, pénurie de logement, pourquoi Legault a fait une première annonce avant les élections pour essayer de dire qu'il allait faire quelque chose? Parce que depuis 4 ans, il ne fait rien. Et qu'est-ce que notre ami, on en a parlé, qu'est-ce que Éric Duhaime dit? Lui, il veut aider les propriétaires pour mieux aider les locataires. Je cherche encore à comprendre l'équation.
Oui, mais il ne faut pas trop que tu te cherches, là. Tu vas plus avoir besoin de Tylenol que tu comprendras, Tom.
Oui, j'ai eu l'occasion de mentionner ton entrevue avec lui dans un article dans The Gazette aujourd'hui. Justement, tellement que je le trouvais classique, ce que tu avais eu comme entrevue avec lui. Donc, mais il est solide, hein, dans ces chiffres-là. Il est en train de parler avec une frange de la population. J'oserais bien me dire que ces réductions d'impôts sont, par hasard, peut-être pas, taillés sur mesure pour le salaire des fonctionnaires en bas du rang de
92 000 quelques, très précis.
C'est très précis, puis c'est très songé, son affaire. T'sais, bon, ça a rapport avec les tables d'impôts, évidemment, mais c'est quand même sa manière de dire, regarde, moi je parle avec mon monde, puis même si d'une phrase à une autre, il se contredit, puis tout le temps en train de bifurquer, puis essayer d'avoir une réponse claire, c'est comme essayer de clouer du jello sur le mur. C'est un gars qui a énormément de capacité comme politicien. Moi, honnêtement, je vais avoir un gros sac de popcorn le soir des débats, parce que ce type-là, en débat, risque de rendre Legault dingue. Legault a la mèche très, 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 très courte. Et on l'a vu à mille et une reprises, il ne supporte pas d'être contredit, d'être questionné, il a ce défaut-là. Mais, je m'excuse, l'ami Duhaime est capable d'aller le chercher là-dessus.
La pire chose dans un débat, c'est être déstabilisé. Mais revenons à la fonderie Horn la folie autour de la fonderie Horn.
Ben, c'est-à-dire que j'adore ta phrase, ça n'arrête pas de ne pas arrêter. Au début, c'était supposé, on met le couvercle sur la marmite, on va annoncer qu'on envoie le ministre de la Santé, on va envoyer notre gars de la Santé publique, il va inventer une norme 15, ainsi de suite. Les gens de la place disent, mais ça marche pas votre affaire, c'est pas sécuritaire. Puis ils sont en train de faire perdre la crédibilité à la Santé publique.
Absolument.
Pour leurs propres besoins politiques, partisans, court terme. Et là, tout d'un coup, on dit, ben, on a un calendrier. Ouais, calendrier, dans quel horizon? Ben, 5 ans. Alors, Benoît Charrette, avec tout le sérieux du monde, va essayer de convaincre les gens qui sont en train de penser à leur santé d'abord et avant tout, alors que c'est très clair que le gouvernement de la CAQ se fait mener par le bout du nez par le monde des affaires depuis le début. Mais ça aussi, ils ont réussi à le garder largement caché du public. Mais ça, c'est un dossier où Legault devient Legault, aux yeux de tout le monde. Hey, t'es en train d'aider qui? Est-ce que tu aides les enfants qui vont à l'école qui aspirent trop de toxines et qui ont de l'arsenic dans l'air et qui vont avoir plus de risques d'attraper un cancer dans leur vie à cause de votre indécision? Puis là, aujourd'hui, on découvre qu'il y a plein d'autres exemptions qui sont données. La loi sur le développement durable a modifié la Charte des droits et libertés de la personne pour y inclure le droit de vivre dans un environnement sain, conformément justement aux lois, aux règlements en place. Ils ne sont pas en train d'appliquer les lois et règlements, ils laissent les compagnies faire à leur tête, et en plus, la garantie dans la Charte des droits. Ah, j'imagine que Legault va encore faire comme il fait à chaque fois que la Charte des droits est en contradiction avec une de ses grandes décisions. Il va dire que la fonderie Horn a le droit de polluer nonobstant la Charte des droits et libertés de la personne. C'est ça qui est sur la table en ce moment. Et c'est très grave ce qui se passe pour les gens de Rouyn-Noranda. Il y a une solidaire qui n'aura aucun mal à se faire réélire. C'est celle qui représente cette région-là.
Émilise Le Sartérien, qui est députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
Et qui est super solide.
Qui est solide, en effet, et qui était qui levait le drapeau concernant la fonderie Horn depuis un peu, à peu près toujours, elle a même réussi à convaincre la mairesse de Rouyn de demander le 3 nanogrammes par mètre cube, les chambres de commerce également de le faire.
Oui, mais les chambres de commerce l'ont fait suivre, ils l'ont talonné avec des lobbyistes attitrés pour qu'elle change sa toune, et c'est elle qui s'est tenue debout. Et c'est ça qui est fascinant dans ce dossier-là.
Et on va continuer de le suivre parce que c'est pas terminé, la fonderie Horn, d'ailleurs, qui vont prendre la parole là, dès demain. C'est la première déclaration qu'ils vont faire devant les médias. Premier point de presse tenu par la fonderie Horn demain. On va suivre ça de très près, puis je suis pas mal sûre, Tom, qu'on va en reparler.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
8h30, précise, moment d'aller joindre Yasmine Abdel-Fadel qui anime l'émission matinale dans les studios de Cube Radio. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
Parlons tout d'abord de cette candidature libérale assez surprise dans Jean Lesage, Charles Robert, bien connu à l'Assemblée nationale, moins connu par contre du public.
Il n'est peut-être pas connu du public, mais il n'y a personne qui est passé à côté de la colline parlementaire à Québec qui ne connaît pas Charles Robert, qui est une espèce de légende des relations médiatiques, du spin, comme on dit, en politique. Charles Robert qui a occupé des places, des emplois assez stratégiques, tant dans le gouvernement Couillard, le gouvernement Charest, qu'auprès de l'opposition de Dominique Anglade. On rappelle qu'il était ex-directeur des relations médias sous le gouvernement Couillard. Mais c'était, par exemple, lui qui était l'attaché de presse et porte-parole de l'Hystério durant la grande crise avec les syndicats concernant le placement syndical dans les chantiers. Alors, ça nous donne un peu le portrait du personnage, quelqu'un qui entretient des relations avec n'importe qui a un micro ou un bloc-notes dans la colline parlementaire et qui joue de la stratégie pour assurer que les lignes gouvernementales ou les lignes de l'opposition se retrouvent à la une. Or, un Charles Robert, on est habitué de le voir dans les coulisses du pouvoir, on est habitué de le voir derrière la caméra. Et aujourd'hui, il se retrouve devant la caméra, il saute à pieds joints dans la politique. C'est assez surprenant, mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'une personne de sa qualité se retrouve à Jean Lesage, qui n'est pas nécessairement un comté qui va être facile pour les libéraux aux prochaines élections. Un comté que l'on donne à la CAQ éventuellement, mais qui va y avoir une chaude lutte avec Éric Duhaime d'un côté et Sol Zanetti d'un autre, c'est le député sortant. Mm-hmm. Alors disons que les libéraux sont loin d'être les favoris pour la circonscription de Jean Lesage. Est-ce qu'il va causer la surprise? Peut-être. Mais avoir que des circonscriptions à Montréal, par exemple, qui sont des circonscriptions traditionnellement libérales, sont encore libres. Je pense à Robert Baldwin, je pense à Lapinière, par exemple. Je pense à Bourassa Sauvé. Je me demande pourquoi ces gens le sachent qu'on donne à une personne comme Charles Robert.
Oui, intriguant, mais ça demeure un comté encore, peut-être plus intéressant encore à suivre, même s'il l'était pas mal. Parlons par ailleurs de cette rentrée, ça approche à grands pas. Et là, il y a des parents qui se demandent comment on va faire pour amener les enfants à l'école. Des fois, avec les horaires et tout ça, c'était l'autobus jaune qui était la meilleure solution. Et là, il n'y aura pas d'autobus jaune dans certains cas, visiblement.
J'ai l'impression que depuis quelques années, la rentrée scolaire constitue un casse-tête pour les parents. Il y a quelques années, on parlait de masque, pas de masque. Est-ce qu'il va y avoir une entrée normale, pas une entrée normale? Là, maintenant, c'est est-ce qu'il va falloir que je me trouve un plan B pour pouvoir transporter mon enfant à l'école alors que tout était planifié à l'avance? Et ça, c'est cette impasse dans les négociations entre les transporteurs scolaires et Québec. J'ai l'impression qu'on a un peu tardé avant d'accélérer ces discussions-là. C'est demain, il est minuit moins une. Les parents, je pense qu'ils ont assez donné. Ils en ont arraché durant les dernières années, que ce soit avec la pandémie, l'école à la maison, les fermetures, ouvertures de classe, port, pas de port, de masque. Peut-on leur donner un petit bout d'oxygène pour cette rentrée, laisser les transporteurs scolaires venir chercher la marmaille et les emmener à l'école sans que les parents s'arrachent les cheveux à chaque matin, s'il vous plaît?
C'est bien dit. Merci beaucoup, Yasmine.
Merci, Marianne. À demain.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
On le sait, Longueuil a franchi une nouvelle étape en prévision de l'opération de réduction de la population de serres de Virginie au parc Michel-Chartrand. On en avait largement parlé au courant des derniers mois. Eh bien, la ville de Longueuil vient d'obtenir le fameux permis requis par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs pour procéder à rien de moins qu'une chasse à l'arbalète des cervidés dès cet automne. Et pour nous en parler, on a avec nous Jonathan Tabara, qui est vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du district du parc Michel-Chartrand. Bonjour, Monsieur Tabara.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir.
Alors, rappelez-nous pourquoi vous avez eu recours à ce permis. Quels en étaient les motifs?
Oui, ben évidemment, c'est pas un sujet qui est nouveau. Hein. On en parle depuis plusieurs années. Ça tarde, ça traîne. Donc, de notre côté, on souhaite aller de l'avant avec une solution pour le parc Michel Chartrand le plus rapidement possible. Il y a, comme on le sait, une surpopulation de cerfs importante. Et donc, finalement, le cheptel de cerfs ne cesse d'augmenter. Donc, compte après compte, on voit que finalement, on s'est rendu à au-dessus de 100 cerfs actuellement, et on ne peut plus attendre. Donc, les dernières méthodes qu'on pensait utiliser, soit la capture et euthanasie, ne seraient plus une méthode qui irait assez vite ou serait suffisante pour la quantité de serres là, qu'on a retirée du parc, parce qu'on ne peut plus attendre. Le parc est très, très magané et on doit le reboiser le plus rapidement possible.
Et là, quand vous dites qu'il y a une surpopulation de serres, combien on compte en abattre? Et combien on compte en garder à peu près?
Je peux pas vous dire exactement combien on va en abattre et en garder. Ce qu'on sait, c'est que le parc pourrait en supporter jusqu'à un maximum de 15. Donc, on peut se dire que ça va. Je peux pas savoir exactement combien l'opération va être capable d'en retirer, mais le parc, lui, serait capable d'en avoir pour un maximum de 15. Donc, plus que 15, on sait qu'on est en surpopulation et on veut pas être à ce seuil-là.
Vous le disiez dans votre précédente réponse, initialement, ça devait être fait par capture et euthanasie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce changement de stratégie et qu'on passe à l'arbalète, finalement?
Oui, eh bien, la solution de capture et euthanasie aurait pu fonctionner lorsqu'on était à quelques dizaines de serres. Donc, c'est ce qu'on regardait pour lorsqu'on était à 30, 40 serres. Ça aurait pu être une méthode qui fonctionne adéquatement à ce moment-là. Par contre, avec un cheptel aussi élevé, la méthode de capture euthanasie ne pourrait pas finalement suffire à retirer assez de serres. Parce qu'on sait, bon, évidemment, la méthode de chasse professionnelle va être applicable beaucoup plus facilement et rapidement sur le terrain. Capture euthanasie, c'est du temps, c'est de l'attente. Et finalement, on le sait qu'on n'aurait pas pu retirer autant de serres que souhaité avec la méthode de capture euthanasie, avec le cheptel qui est aussi élevé là actuellement. De là, finalement, la solution demeure, finalement, à vrai dire, la mission demeure la même, c'est la méthode là, qui change tout simplement.
Mais là, vous disiez que c'était de la chasse professionnelle. Qui va faire cette chasse? Comment elle va se faire? À partir de quand?
Eh bien, ce sont des chasseurs professionnels engagés par des firmes spécialisées qui font ce type d'opération, finalement, dans des parcs avoisinants, là, des parcs de la CEPAC. Ils font dans l'est de Montréal, ils font, par exemple, dans les îles de Boucherville, au parc de Mont-Saint-Bruno et tout plein de parcs au Québec. Lorsqu'il y a une surpopulation de serres et qu'on doit ramener ça à l'équilibre, à chaque année, là, il y a des opérations comme celle-ci au Québec. Et donc, ce sont des firmes là, qui font ça, qui sont qui sont bien au fait, qu'on est dans un milieu un petit peu plus urbain, qui savent comment s'adapter à ça, agir de façon tout à fait sécuritaire pour les citoyens, puis qui sont efficaces. Donc, c'est ce que l'on souhaitait pour le parc. Et bon, on est très, très heureux d'avoir obtenu finalement le permis SEG qui était nécessaire là, à des fins scientifiques puis éducatives et gestion de la faune. Donc, c'est un permis qui est offert par le ministère. Et c'était finalement l'étape que l'on attendait là, avant de pouvoir procéder dans les prochaines semaines.
Évidemment, la saga des cerfs de Virginie du parc Michel Chartrand a déchaîné les passions, notamment des recours judiciaires qui ont été entamés en mai dernier par Maître Goldwater, que l'on connaît très bien. Elle préconisait plutôt la capture des cerfs et leur déplacement vers d'autres écosystèmes. Pourquoi ce n'est pas faisable? Parce qu'évidemment, on se pose toujours la question, est-ce qu'on peut ne pas les tuer, ces cerfs-là?
À vrai dire, non, ce n'est pas possible. C'est pas quelque chose que ni le ministère ni le comité d'éthique de l'Université de Montréal préconisent. Il y a eu des tests qui ont été faits aux États-Unis pour le déplacement de cerfs et ça a été des échecs monumentaux. Et donc, de transporter les cerfs d'une région à l'autre, on vient tout simplement, causer des risques de stress et blessures graves aux cerfs. Le taux de survie est particulièrement faible après un an dans la relocalisation. Et en plus de ça, on vient mettre en péril le nouvel écosystème dans lequel on va déplacer les cerfs. Parce que cheptel à cheptel, ils n'ont pas nécessairement la même génétique, les mêmes maladies. Donc, si on transporte des cerfs du parc Michel Chartrand qui sont surpeuplés, donc quand on sait qu'une surpopulation est surpeuplée, normalement, ils deviennent un peu plus résistantes aux maladies, comme les humains d'ailleurs. Donc, on les prend et on les transporte dans une autre région du monde, d'une autre région du Québec, pardon. Et on prend le risque, finalement, de transporter des maladies, parasites, etc. Donc, non seulement ça, mais aussi toute la souffrance causée aux animaux. Et c'est pas une solution qui est pérenne. Hein? Donc, ça veut dire qu'est-ce que dans chaque fois qu'on a des parcs qui sont surpeuplés, donc à chaque année au Québec, on a des parcs surpeuplés, là, on va devoir trouver une région au Québec où on va transporter les cerfs. Donc, ça n'a pas de fin. Là. C'est pas une solution qui peut fonctionner à long terme. Et on va aller en cours vers la mi-septembre là, pour l'instance de sauvegarde. Donc, avec Mme Goldwater, elle pourra faire valoir son point à la cour là, sans problème.
Et combien se coûte cette opération-ci du début jusqu'à la fin, finalement?
Bien, du moment qu'on aura tous les chiffres, parce qu'on a encore à ficeler le côté technique de l'opération, le moment où on aura tous les chiffres, ce sera fait de façon très transparente. Donc, tout sera émis publiquement, les coûts totaux seront émis publiquement, donc dans les prochaines semaines.
Vous devez quand même avoir une idée de combien coûte l'opération de chasse, puisque j'imagine que les chasseurs professionnels ont déjà été engagés pour pouvoir entamer cette opération.
Bien, le tout sera dit, en effet, dans les prochaines semaines, dans un communiqué à cet effet, avec l'ensemble des informations, donc exactement, donc les coûts, tous les paramètres qui sont autour, là, on pourra en parler dans les prochaines semaines sans problème.
Pouvez-vous nous confirmer si c'est la ville de Longueuil qui va assumer la totalité de la facture?
Ben écoutez, pour le moment, je vous dirais que oui, je veux dire en grande partie. C'est sûr que bon, il y a toutes sortes d'implications qui viennent par exemple du ministère ou d'autres instances. Mais c'est certain que oui, la ville de Longueuil aura des frais à payer. Là. Donc, ça, dans tous les cas, ça a arrêté le cas.
Pour le cheptel restant, M. Tabarra, est-ce qu'on va procéder à une opération de stérilisation pour assurer qu'on ne se retrouve pas dans le même problème dans quelques années?
Bien, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va évaluer. À New York, ils ont fait des opérations de stérilisation qui ont moyennement porté fruit. C'est quelque chose, évidemment, qu'on va évaluer pour ne pas avoir à refaire des opérations comme celle-ci année après année. Là, ce qui est important, c'est de le faire d'un seul coup pour pas mettre en péril d'autres cheptels de cerfs au Québec aussi, comme on a expliqué un peu les conséquences du déplacement. Par contre, en effet, oui, stérilisation et autres méthodes seront analysées par la suite là, pour essayer de garder le cheptel dans une zone contrôlable pour que le parc puisse se régénérer de lui-même et que toutes les autres espèces de mammifères et d'oiseaux qui ne prospèrent plus actuellement dans le parc parce qu'ils n'ont plus de nourriture, puissent revenir dans le parc et refaire leur vie. Que toutes ces autres espèces puissent prospérer dans le parc et qu'on trouve un écosystème assez intéressant, là, comme on avait à l'époque.
Monsieur Tabarra, pour conclure, allez-vous récupérer la viande de cerf? Qu'est-ce que vous comptez faire avec la viande de cerf?
Oui, bien sûr. Donc, le plan pour nous demeure le même. Donc, à moins de grands changements, donc la viande ira aux banques alimentaires et sera évidemment récupérée. C'est une viande de belle qualité. Donc, la population, les gens dans le besoin là, pourront s'approvisionner là, dans les banques alimentaires pour la viande de cerf.
Monsieur Tabara, vous êtes vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du district du parc Michel Chartrand. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877-CUBE-RADIO.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
La nouvelle a eu l'effet d'une bombe hier. Ben, c'est au tour du cardinal Ouellet d'être éclaboussé par des accusations et des allégations d'agression sexuelle, Félix.
Oui, te dire à quel point c'est une bombe hier quand cette nouvelle-là est parue. Sur les différents sites d'information internationale, je consultais le site du Guardian, du Telegraph, du Corriere della Sera en Italie. El Mundo également, en France, les sites aussi des grandes chaînes de télé françaises. C'était, si l'on veut, la nouvelle qui était la première à l'avant-plan et la plus importante en raison de la proximité de Marc Ouellet avec le pape François. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger l'importance, l'impact de cette nouvelle-là. Le cardinal, donc, est plus qu'éclaboussé, là. Ensuite, c'est une victime, donc qui s'est confiée d'ailleurs à mes vis-à-vis là de l'émission Enquête à Radio-Canada. Et quand on voit ça, quand elle voit ce qu'elle allègue, cette victime-là, puis son avocat a confirmé un peu l'affaire, c'est vraiment des allégations d'agression sexuelle. C'était une stagiaire au diocèse de Québec et pendant ce stage en pastoral, on l'aurait embrassée. Et on lui aurait touché les fesses. Et là, j'entends...
Et quand on dit « on », c'est le cardinal lui-même.
Oui, là. C'est le cardinal lui-même qui a déjà été pressenti, d'ailleurs, pour devenir pape. Je pensais que ça pourrait peut-être, pour décrypter ce matin un peu mieux, c'est quoi l'agression sexuelle ou le harcèlement sexuel, décrypter un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette femme-là a vécu, parce que j'ai entendu, puis j'ai lu sur les réseaux sociaux, bien sûr, ne pas aller sur les réseaux sociaux, si tu veux, des commentaires qui ont du sens quand tu parles de ce qu'une femme rapporte puis ce qu'une femme allègue. Parce que, au fond, là, tu sais, embrasser, mettre la main sur le dos, mais aller vers les fesses, pour plusieurs hommes, c'est pas une agression sexuelle. La vérité, là, c'est que c'est une agression sexuelle. Il y a différents types d'agression sexuelle. Et si on se fie sur le site exemple du CALAC, là, Entraide Action, Centre d'aide et lutte contre les agressions sexuelles, c'est un organisme là qui est très connu au Québec, le fameux CALAC. Alors, quelles sont les formes d'agression sexuelle? Il y a le viol, il y a l'agression sexuelle et ou les attouchements sexuels. Regarde ce que ça dit, c'est que l'agression sexuelle inclut tous les gestes, paroles, attitudes à caractère sexuel qui sont posées sans le consentement et contre la volonté de la personne. C'est-tu assez clair, ça?
On devrait le mettre sur des pancartes un peu partout au Québec, là, tu sais, puis l'afficher juste, tu sais, ces autoroutes au cas où des personnes ont besoin de lire puis de s'informer sur comment on définit une agression sexuelle. C'est encore trop méconnu.
Ouais, puis mettre en lettres majuscules et en caractère gras le fameux tout, et dans tous les contextes. Que ça soit en contexte de situation, en contexte de vie commune, de couple, dans tous les contextes, il n'y a pas d'exception à cette règle-là. Alors, continuons sur le fond. Donc, l'information qui éclabousse le cardinal Ouellet, ça a été rendu public hier. C'était une action collective qui avait été déposée, qui visait le diocèse de Québec. Et c'est drôle, hein, parce que, tu vois les images du cardinal Ouellet, tu les as vues, en fait, il y a quelques semaines, quand le pape François est venu ici, quand il a fait, quoi, c'était au Vêpres, hein, où il s'est excusé, et on ne l'attendait pas, c'est arrivé un peu du champ gauche, où il s'est excusé pour tous les malheurs commis par l'Église au Québec. Puis quand on entend malheur, c'est malheur sexuel, toutes les victimes qui ont été abusées, etc. Moi, je suis extrêmement content que cette information là sorte, parce que je trouve que depuis que les scandales...
Ah, je pense que nous avons perdu Félix Séguin et on va essayer de tenter de le joindre.
Si l'on veut.
Ah, il est de retour.
Plus ou moins. Alors, je te disais que je crois que le clergé québécois a été plus ou moins épargné, tu vois.
Félix, je pense qu'on va essayer de te contacter avec une meilleure ligne dans les prochaines secondes, mais c'est vrai que cette nouvelle est une nouvelle importante. Imaginez si elle était sortie lors de la visite du pape, pendant que le pape s'excusait pour les sévices que les Autochtones ont vécus. Des sévices sexuels que les Autochtones ont vécu. C'était la troisième série et la toute dernière série d'excuses du pape. Imaginez si la journée même, cette nouvelle serait était sortie, ben ça aurait fait une plus grande commotion qu'elle ne le fait aujourd'hui. Je pense qu'on a retrouvé la ligne avec Félix.
Oui, on n'a pas la même ligne, mais on a une ligne quand même. Alors voilà, ben oui, je trouvais que depuis une vingtaine, 25, 30 ans, depuis que les scandales d'abus sexuels commis par l'Église sur toute la planète là, ont commencé à être publiés, je trouvais que le saint du saint, sans mauvais jeu de mots, au niveau du clergé québécois, avait été relativement épargné. Et là, ben non, plus maintenant. Alors, si le cardinal Ouellet, on verra bien là, qu'est-ce que la justice en pense, parce que c'est une action collective, alors on verra bien ce qui se passe, mais franchement, c'est une étape hyper importante, je pense, au Québec pour les victimes d'agressions sexuelles.
Absolument. Et il y a cette autre histoire, celle des concessionnaires John Scotty qui vendent des voitures de luxe. Là, ils sont encore visés par de la violence armée, par des balles.
Oui, c'est assez important, cette nouvelle-là. Si on va lire le texte de Francis Pilon et d'Antoine Lacroix dans le journal aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus. Juste pour école, là, la famille Scotty, depuis des années, est propriétaire de plusieurs concessionnaires à Montréal. Je dois te dire qu'il y a des tensions entre certains membres de la famille Scotty. Et là, ils s'estiment dévastés après avoir été victimes de plusieurs crimes violents, parce que c'est la deuxième fois, là, minimalement la deuxième fois, qu'il y a des coups de feu qui sont tirés dans la vitrine de leur concession qui est située sur le boulevard métropolitain dans l'arrondissement Saint-Laurent. John Scotty a été joint par mes collègues hier, donc il a dit « Je sais pas quoi vous dire, je comprends pas, je suis dévasté. » Dans ça, ce qui est assez important, c'est, en tout cas, je t'ai dit que c'est la deuxième, mais c'est la troisième fois, en fait, depuis le début de l'été, ça devient un peu invivable pour les propriétaires. Parce que c'est pas la seule concession qui a été visée non plus. Il y a celle de Saint-Léonard, mais il y a celle de Kirkland aussi, John Scotty Mitsubishi. Il y a eu John Scotty Prestige aussi. Donc, tu sais, ça fait beaucoup. Ce que ça veut dire, si M. Scotty ne comprend pas du tout ce qui arrive, ça, moi, c'est de nature à me surprendre, ces commentaires-là, parce que les incendies criminels, les trous de balles dans les vitrines, et etc., ce sont des messages historiquement passés par le crime organisé, et là, ça semble être très, très, très clair que quelqu'un passe un message, peut-être pas à John Scotty lui-même, mais à des membres de la famille Scotty, ou à des frères Scotty, ou à des personnes qui travaillent à l'intérieur des garages de M. Scotty. Donc, je ne sais pas si M. Scotty est capable de décrypter ce message-là. Peut-être qu'il a raison, qu'il ne comprend rien, mais la vérité, là, c'est qu'il y en a un message. Et moi, je reçois beaucoup d'informations depuis quelques semaines sur certaines chicanes entourant le clan Scotty, certains messages que l'on voudrait faire passer à quelques individus qui en font partie. Je ne vais pas plus loin présentement, parce que tout ce que j'ai pu confirmer, c'est qu'il y a effectivement des chicanes dans ce clan. La nature de ces chicanes, dépendamment des sources auxquelles on parle, ça diverge, mais il y en a. Alors, tu sais, il y a vraiment un message là qui est en train de se passer. Puis c'est lequel, puis ça veut dire quoi? Là, j'ai l'impression que M. Scotti doit être en train de chercher, puis je plains sa situation, je la déplore. Des messages, ça se fait pas passer avec des guns, mais dans certains milieux, oui. Et il faut, tu sais, faut en être très conscient et agir avec prudence. Ouais.
Et on revient sur ce meurtre qui a été, qu'on a tenté de maquiller, qui a eu lieu en Montérégie il y a quelques jours. C'est un homme de 33 ans qui est accusé d'avoir abattu sa victime pour ensuite déplacer le corps 40 kilomètres plus loin.
Ouais, Jimmy Lemire Charlebois, c'est l'accusé. Dans ça, c'est un père de famille qui a été accusé. Jimmy Lemire Charlebois est un père de famille. On l'a accusé d'homicide involontaire, là, avec une arme à feu de Danny Durand-Lapas. Alors, on comprend, hein, qu'homicide involontaire, dans la fourchette, là, des accusations qui mènent à la mort, c'est la moins grave, en fait, là. Souvent, quand on porte ce genre d'accusation-là, on pourrait aussi reviser l'accusation à la lumière de nouvelles preuves obtenues par les policiers. Ce qu'on sait, c'est que à 21h45, la journée du crime, jeudi dernier, qui a été commis à Saint-Livoire, il s'est déplacé, selon les prétentions des autorités, 40 km plus loin. À Saint-Bernard-de-Michauville, en Montérégie, puis là, on a trouvé sa victime résumé près d'un bateau, donc tombé près d'un bateau en rénovation, monté sur des blocs en entretien. On pensait qu'il était mort d'une chute, mais ils ont rapidement, policiers, constaté que c'était un homicide. Alors, voilà, je voulais t'en parler. Puis, la victime, Danny Durand, l'apporte un bon casier judiciaire. Ben, Jimmy Lemire Charlebois aussi, 2 ans de prison pour vol qualifié, possession de drogue en vue d'en faire le trafic. Alors, c'est quoi l'histoire qui boue derrière cette affaire-là, mais en tout cas, il semble y en avoir une, et ça semble être une assez grave pour avoir mérité, ben pas mérité, avoir fait en sorte que cette victime est décédée.
Félix Séguin, toujours un plaisir, on se parle demain.
À demain.
Et alors, c'est sur ce que s'achève l'émission d'aujourd'hui. Alors, je vous retrouve demain 7h le matin. D'ici là, je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Moranville-Ouellette et je vous souhaite une excellente journée.
Cube Radio.